France Inter. Pierre Veil. Le 6-9 de l'été.
Aujourd'hui, 2 août, l'humanité a consommé toutes les ressources que la Terre peut produire en une année. C'est le jour du dépassement de la Terre, calculé par un institut de recherche en Californie. En 7 mois, tout a été absorbé. Il reste 5 mois et désormais, les écosystèmes vont être surexploités. Nicolas Hulot, bonjour.
Bonjour.
Ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Donc, nous avons collectivement épuisé le potentiel renouvelable de la planète. Vous dites, nous avons des raisons d'espérer. Alors, comment faire pour que cette date arrive plus tard? En 1985, elle tombait le 5 novembre. En 1998, le 1er octobre. Comment on fait maintenant?
Peut-être renouer avec l'étymologie du mot économie. Économiser, c'est pas dépenser, c'est pas piller, c'est pas gâcher, c'est pas détruire. Et donc, il faut que nous prenions conscience que sur Terre, contrairement à l'illusion que nous avons eue jusqu'à peu, la norme n'est pas l'abondance, elle est la rareté. Et d'imaginer qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini, c'est une illusion.
Alors on économise sur quoi?
D'abord, tous les gisements de gâchis, tous les prélèvements indus, croyez-moi, dans beaucoup de domaines, à service et à confort égal, prenez le gâchis alimentaire, pour ne parler que de celui-là, prenez dans le stress hydrique que connaît la planète des utilisations abusives de l'eau, par exemple, prenez certaines pratiques de pêche qui, pour 3 ou 4 espèces comestibles, ou en tout cas qui ont une vocation commerciale, on en détruit quelques dizaines d'autres. Ce sont tous ces sujets-là, prenez dans le domaine énergétique, où à confort égal, on peut parfois diviser par 4 notre consommation énergétique. C'est tous ces gisements qu'il faut qu'ensemble on identifie et qu'on crée les politiques, les normes, les incitations, les dissuasions qui vont nous permettre de revenir à la notion basique de l'économie. C'est la sobriété. La sobriété, c'est pas la décroissance. La sobriété, ça permet d'éviter de basculer de la rareté à la pénurie. Parce que quand on tombe dans la pénurie, alors là, il y a de la tension. Là, il y a de la colère. Et là, il y a de la violence. On s'est fait la guerre pour le pétrole. Qu'en sera-t-il quand des ressources élémentaires, comme les ressources halieutiques ou les ressources en eau, ou simplement les ressources en terre agricole, deviendront des points de compétition? Ça demande de la gestion. Ça demande de la compréhension et ça demande de la fermeté. Et l'économie circulaire notamment, qui est un modèle économique qui est en train de se diffuser, qui va permettre, encore une fois, de passer d'une économie simplement d'exploitation, de prédation et de déchets à une économie où les déchets vont de nouveau devenir des matières premières. Et personnellement, je présenterai un plan, une stratégie d'économie circulaire début 2018.
Vous parlez de plan, vous présenterez dans une semaine un plan anti-sécheresse sur la gestion de la ressource en eau. Quelles mesures seront annoncées?
Non, ben, je ne vais pas les annoncer avant le Conseil des ministres. Vous savez, on ne va pas inventer l'eau chaude. Ce qui est important, c'est dans les usages de l'eau. En période de sécheresse, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malheureusement, cette situation de sécheresse que l'on semble découvrir, qui était parfois, enfin jusqu'à présent, un peu l'exception, elle va devenir assez régulière. On est dans les manifestations, les premières manifestations des changements climatiques. Les incendies de forêt, dont on a connu des épisodes douloureux ces derniers jours, et d'ailleurs qui ne sont pas encore totalement derrière nous, sont les manifestations de ce qu'on appelle les premiers extrêmes climatiques. L'utilisation de l'eau, pendant longtemps, voilà, l'eau est apparue comme une ressource inépuisable. Mais on voit bien aujourd'hui, il va falloir que l'on s'adapte.
Des économies, là encore?
Oui, mais qu'on s'adapte. C'est-à-dire que notamment, il y a des modes de production aujourd'hui agricoles, qui sont très intensifs en consommation d'eau, il va falloir peut-être envisager très sereinement à adapter aussi l'agriculture aux contraintes climatiques d'aujourd'hui.
Alors justement, vous parlez de l'agriculture, une trentaine d'organisations, dont la Fondation pour la Nature et l'Homme, l'ex-Fondation Hulot, dénonce le quasi-arrêt des aides à l'agriculture biologique et exige plus d'aide. Vous partagez ce point de vue?
Alors, je partage l'objectif. Et moi, j'attends beaucoup des états généraux de l'alimentation. Parce que pour moi, mon point focus, c'est, je dirais, mon marqueur, ce sont les états généraux de l'alimentation. Si les états généraux de l'alimentation peuvent avoir, entre autres conséquences, un rééquilibrage entre les aides à l'agriculture conventionnelle, l'idée n'est pas d'arrêter l'agriculture conventionnelle, et les autres modes de production, parmi lesquels l'agroécologie et parmi lesquels l'agriculture biologique. J'attends beaucoup ces états généraux de l'alimentation, d'autant que la demande est là.
Et mais vous trouvez acceptable que le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, annonce que seuls 2% des aides agricoles européennes affectées à la France sont versées aux paysans bio?
Non mais il ne s'arrête pas à cette situation-là. Stéphane Travert, comme moi, ce que l'on souhaite, c'est évidemment d'encourager et de rééquilibrer, notamment dans les aides du pilier 1 qui ont été basculées au pilier 2. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'a fait Stéphane Travert? Il a fait en sorte que dans ce basculement du pilier 1 au pilier 2, ça profite aussi à d'autres modèles agricoles et notamment les agricultures de montagne. Moi, j'ai évidemment aussi à cœur, et ça sera, je l'espère, l'objectif et la conséquence des états généraux de l'alimentation, que l'agriculture bio soit beaucoup mieux dotée. Donc, rendez-vous à la deuxième étape des états généraux de l'alimentation, et je veux rassurer ceux qui, à juste titre, s'inquiètent. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est évidemment une de mes priorités.
Très peu de crédit pour une agriculture qui a beaucoup de succès. Les Français sont de plus en plus fans de bio.
Oui, mais justement, les filières sont en train de s'organiser. D'ailleurs, très sincèrement, il y a des agriculteurs bio qui s'en sortent très bien. Une fois que les aides à la conversion, qui sont aussi importantes que les aides au maintien. Et c'est ces aides à la conversion, à mon avis, qu'il va falloir surtout multiplier pour aider les nombreux jeunes agriculteurs qui ont envie de passer dans ce mode de production qui les réconcilie quelque part avec les consommateurs et qui leur donne une sécurité psychologique, économique et sanitaire.
Les suites de la conférence de Paris sur le climat, Nicolas Hulot, une étude américaine publiée lundi affirme qu'il n'y a que 5% de chances de limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Les températures, selon cette étude, vont probablement augmenter de 2 à 5 degrés. C'est sérieux ?
Tout ça, ce sont autant de signaux d'alerte qui nous montrent une chose, c'est que le seuil de l'irréversible, il est peut-être pas franchi, mais il n'est pas loin d'être franchi. Et vous savez, c'est Bossuet qui disait « Nous sommes d'étranges créatures qui nous affligeons des effets, mais qui continuons à endurer les conséquences. » Donc il y a simplement un moment, il va falloir qu'on soit cohérent. Soit tout ça,
donc ça peut
est certifié et la science est en train de donner un verdict. Et à ce moment-là, il va falloir qu'on change radicalement notre modèle énergétique, notamment. Ouais. Et c'est bien pour ça aussi que je le dis aux uns et aux autres. La première chose, c'est qu'il faut qu'on sorte des énergies fossiles. Et sortir des énergies fossiles, il faut qu'on en sorte le plus rapidement possible. C'est pour ça que j'ai eu un plan climat qui soit ambitieux. Mais si dans le même temps, on est contre toutes les autres modes de production énergétique, et notamment, je dis cela par rapport aux énergies renouvelables, qui rencontrent beaucoup de résistance sur le terrain, alors que c'est l'avenir de l'énergie, c'est l'avenir de la planète qui se joue. Et je demande simplement que, dans les territoires, on fasse preuve de compréhension pour le développement des énergies renouvelables, parce que c'est ça qui va nous donner notre autonomie énergétique.
Mais Nicolas Hulot, si on veut réduire de 75 à 50% la part du nucléaire dans notre production d'électricité d'ici à 2025, il faudrait fermer probablement 25 réacteurs nucléaires pour y parvenir. C'est ce que vous avez dit. 2025, je veux dire, c'est demain, c'est dans 8 ans. Est-ce qu'on aura alors, dans 8 ans, les énergies renouvelables pour remplacer ces réacteurs nucléaires fermés?
Eh bien, c'est justement la réponse qu'il faut qu'on apporte à cette question, et c'est pour ça que j'ai posé ce débat sur la table. Et la réponse à cette question, elle se fera dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et nous verrons les scénarios réalistes.
Donc vous n'êtes pas certain qu'on aura ces énergies renouvelables?
En tout cas, il faudra qu'à un moment ou à un autre, nous ayons ce point de rencontre. Cette programmation, cet exercice qui va se faire collectivement nous apportera un scénario qui soit réaliste. Moi, ce qui m'importe, encore une fois, c'est qu'on se fixe un objectif qui soit réaliste et qui soit irréversible une fois que nous aurons défini la trajectoire. Il faudra réduire la part du nucléaire, chacun le sait. Et moi, je ne veux pas me contenter simplement de fermer Fessenheim. Mais je veux une stratégie qui soit cohérente, c'est-à-dire libérer notamment les appels d'offres pour le développement des énergies renouvelables. Réduire notre consommation énergétique en encourageant tous les process d'efficacité énergétique. Et mécaniquement, nous allons sur des critères sociaux, économiques et de sécurité, fermer un nombre de réacteurs. Le nombre, on le dira lorsque nous serons mis d'accord sur les scénarios et le calendrier aussi. Mais moi, je ne me mettrai pas sur un calendrier qui soit irréaliste. Par contre, une fois que la date sera fixée, eh bien, il n'y aura pas de retour en arrière.
Un mot encore du retrait américain de l'accord de Paris. Donald Trump, lorsqu'il était à Paris avec Emmanuel Macron, a dit que quelque chose pourrait se passer. Est-ce qu'il y a actuellement des négociations en coulisses et finalement, l'administration Trump pourrait changer d'avis? Vous avez des informations?
J'en sais pas plus sur le quelque chose. Que je veux simplement vous confirmer, c'est que l'accord de Paris n'est pas négociable en aucun point.
Nicolas Hulot est notre invité ce matin. Vous pourrez l'interroger dans 7 à 8 minutes dans Interactive 01 45 24 7000. Mais là, sur Inter et même ailleurs, il est 8h31. Voici la revue de presse avec Philippe Lefébure. Bonjour Philippe.
Bonjour, un petit bug à l'Élysée, on va commencer par ça. C'est le Canard Enchaîné qui le raconte ce matin. Le 26 juillet dernier, une réunion est organisée à l'Élysée donc. Réunion consacrée au bug en série à l'Assemblée nationale et aux moyens d'y mettre fin. Elle va se solder, raconte le Canard, par un autre bug. En effet, une fois attablés, Macron, Rugy, Ferrand, Patriat, Castaner et les responsables du Modem se sont rendus compte qu'il manque quelqu'un, Édouard Philippe. Aucun ministre de droite non plus n'est présent. Cette réunion ne peut avoir lieu sans le Premier ministre, s'est exclamé Emmanuel Macron, toujours cité par le Canard Enchaîné. Il faut le mettre dans la boucle. Une impression de flottement, d'une fin d'état de grâce pour le président de la République, son gouvernement, sa majorité. C'est ce qui ressort de la lecture de plusieurs articles ce matin. Un édito d'abord dans l'opinion. Rémi Godeau revient sur une autre citation prêtée au chef de l'État. Du pipi de chat, c'est ainsi qu'il aurait qualifié les notes que lui font remonter ses ministres. L'Élysée dément, mais l'éditorialiste y voit une forme de crispation. Emmanuel Macron est confronté, écrit Rémi Godeau, aux faiblesses de ses propres choix. Des ministres novices ou issus de la société civile, dont plus techniciens que politique, ça c'est pour vous Nicolas Hulot, des cabinets ministériels très restreints, donc à la merci d'une bureaucratie pléthorique et enfin une concentration extrême du pouvoir. Dans le Parisien aujourd'hui en France, François Patriat, président du groupe La République En Marche au Sénat, est très proche d'Emmanuel Macron, tente de rassurer. Le résultat de ces premiers mois n'est pas si mal, dit François Patriat. Moralisation, sécurité, ordonnance, travail. Qui aurait dit qu'au 1er août, on aurait voté trois textes de cette importance? Il y a eu des couacs, mais c'est mineur, poursuit-il. Alors faut-il procéder à des ajustements, lui demande le Parisien. On comprend à le lire que la majorité, c'est la priorité, pardon, c'est la remise en ordre du mouvement En Marche. Pour les ministres, rien d'urgent, laissons-les assumer leur budget et leurs responsabilités. Quant au Parlement, François Patriat coupe court à la question « Je garde mes sentiments pour moi ». Un autre qui les garde pour lui, ses sentiments, ou presque, c'est le ministre des Affaires étrangères. Les inquiétudes de Jean-Yves Le Drian, c'est le titre d'un papier du Figaro. Il n'est pas sur le départ, affirme un proche du ministre, anonyme, cité par le journal, mais la période d'installation du nouveau pouvoir est compliquée pour lui. Pour lui, raconte encore ce proche de Jean-Yves Le Drian, c'est 50-50. Il éprouve une forme de tristesse sur la méthode. Le Canard Enchaîné, on y revient, épingle ce matin le centriste Michel Mercier. Tout à l'heure, il sera auditionné au Sénat par la commission des lois, dont il fait partie d'ailleurs. Il y défendra sa candidature proposée au Conseil constitutionnel. Une nomination qui tombe à pic, ironise le Canard. Elle va permettre aux sages de bénéficier d'un avis d'experts quand ils examineront la loi de moralisation de la vie publique et son volet sur les emplois familiaux. L'hebdomadaire révèle en effet que Michel Mercier a employé deux de ses filles ces dernières années, Véronique de 2003-2012 au Sénat et dans les différents ministères qu'il a occupés, et puis Delphine à mi-temps de septembre 2012 à avril 2014. Un emploi basé à Paris, alors qu'elle était domiciliée à Londres et y travaillait à mi-temps. Un emploi d'attachée parlementaire pour cette historienne d'art, spécialiste des reliques textiles de Saint-Thomas-Becket conservées en France, écrit le Canard Enchaîné. Michel Mercier répond au journal que sa fille pouvait cumuler ses emplois et qu'elle travaillait pour lui sur des dossiers culturels. Dans Paris Match de cette semaine, sorti un peu plus tôt avec Jeanne Moreau en une, dans Paris Match, une réapparition, celle de Pénélope Fillon, l'insaisissable, photo volée à la sortie d'une boulangerie dans la Sarthe. Bruno Jeudy et Pauline Lallemand signent un long papier dans un décor à la Downton Abbey. Il, François Fillon, pêche. Elle, Pénélope, jardine. La vie continue. L'article sert en fait à prendre des nouvelles de François Fillon. Depuis la défaite, 100 jours de silence ont calculé les auteurs. S'il a fait rassembler tous les documents et les notes de sa campagne, il a finalement renoncé à écrire un livre cet été. On apprend aussi que François Fillon a trouvé un nouveau job. Les rares proches dans la confidence ont ordre de ne rien dire sur le profil du poste et l'identité de l'employeur. Tout juste, sait-on, qui prendra ses fonctions à la rentrée.
Philippe Lefébure, on en parle avec notre invité, Nicolas Hulot. Aujourd'hui, c'est le jour du dépassement.
La planète bleue dans le rouge, titre Libération. Le quotidien consacre ses pages événements à ce jour fixé par une ONG qui marque donc le moment à partir duquel l'humanité vit à crédit. Libération donne la parole au fondateur et président de Global Footprint Network qui a lancé et popularisé ce jour du dépassement. C'est tout à fait possible de faire reculer cette date, affirme-t-il, évidemment en changeant nos habitudes. Ce qu'un rapport récent cité par Libération rend concret avec quatre préconisations plutôt radicales. Passer à un régime végétarien, faire moins d'enfants, éviter de voyager en avion et prendre sa voiture. À Berlin, c'est une réunion de crise qui est annoncée aujourd'hui. C'est la manchette des Échos, le crépuscule du diesel. En Europe de l'Ouest, depuis le début de cette année, moins de 45% des nouvelles immatriculations étaient pour des véhicules roulant au gazole. On était à 56% il y a 6 ans. Les industriels s'inquiètent de la chute trop brutale de leurs ventes qui pourrait les déstabiliser. À Berlin aujourd'hui, les constructeurs auto et le gouvernement allemand doivent se rencontrer bientôt 2 ans après le séisme du Dieselgate pour trouver les moyens de réduire les émissions d'oxyde d'azote des moteurs diesel. Les marques allemandes ont une crainte que les grandes villes du pays décrètent l'interdiction des voitures diesel. Au passage, l'article signé Pauline Wédé, correspondante des Échos à Berlin, souligne que le gouvernement d'Angela Merkel n'entend pas mettre fin à la vente de véhicules à moteur thermique à une échéance donnée, à la différence de la Grande-Bretagne et de vous, Nicolas Hulot. Date fixée à 2040, la chancelière allemande ne vous suit pas.
On verra. Peut-être qu'elle a dans sa tête un calendrier un peu plus souple. Mais moi, je suis très content de voir que les industriels français ont dit chiche et de voir que dans la foulée, effectivement, le Royaume-Uni nous a suivis. Donc, la contagion a démarré.
Bon, sujet nous ramène en tout cas à l'une des sorties cinéma du jour. Il s'agit de Cars 3. Avis mitigé dans la presse pour les nouvelles aventures de Flash McQueen, cette voiture de course très humaine et reine des courses automobiles. On commence à en avoir plein les jantes pour Télérama, un pétaradant troisième volet, à l'inverse pour Libé, pour les Échos, Cars en a encore sous le capot. Thomas Sautinel, lui, pour Le Monde, s'est ennuyé à la vision du film d'animation. Du coup, il n'en fait qu'une lecture politique. Dans un demi-siècle, quand tous les gouvernements auront tenu leur engagement de mettre fin à la production de véhicules à moteur à explosion, on y revient, les films de la série Cars susciteront le même attendrissement nostalgique que le petit dinosaure. Mais voilà, en attendant, écrit Sautinel, le président des États-Unis a proclamé son intention de dénoncer l'accord de Paris sur le climat, concentrant toutes ses attentions sur un secteur industriel, l'automobile. Et le studio Pixar continue à sortir de nouveaux modèles de son Cars, un îlot à l'abri des considérations écologistes et mondialistes qui parcourt pourtant tant d'autres productions du même studio.
C'était la revue de presse avec Philippe Lefébure. Dans quelques instants, le Standard interactif. Beaucoup de questions pour Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique.
Cet été sur France Inter, du lundi au vendredi à partir de 16h,
le temps d'un bivouac, 2 heures quotidiennes d'aventure et d'évasion.
Daniel Fievé.
Comment vivaient les peuples d'Amazonie avant l'arrivée des Européens? Nous tenterons de répondre à la question ce mercredi avec l'archéologue Stéphane Rostin qui a passé des années à fouiller le sol de la forêt amazonienne. Puis nous reviendrons sur la vie d'une primatologue qui a fait beaucoup pour l'étude et la sauvegarde des gorilles, Diane Fosset.
Le temps d'un bivouac.
Tout à l'heure sur France Inter, à partir de 16h.
Sachant que Hugo passe en CM1, qu'il a grandi de 8 cm et qu'il aura besoin de 8 heures de sommeil, que doit faire sa maman pour lui trouver un nouveau lit pour la rentrée sans se ruiner? Vous avez une heure.
C'est simple, la solution se trouve chez Ikea. Et en plus, jusqu'au 3 septembre, profitez du paiement en 3 fois sans frais.
Ikea.
Pour tout achat entre 150 et 4 500 €, remboursement sur 3 mois. Ikea France SAS est un intermédiaire en opération de banque immatriculé comme mandataire exclusif de BNP Paribas Personnel Finance. Voir conditions en magasin et sur Ikea.fr.
9h-20.
France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Interactive avec notre invité, Nicolas Hulot, le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, au Standard. Marie-Thérèse, bonjour Marie-Thérèse.
Bonjour messieurs.
Bonjour. Nicolas Hulot vous écoute.
Oui monsieur Hulot, bonjour. Je me suis réjouie de votre nomination au gouvernement parce que je crois vraiment à la sincérité de vos engagements. Et par contre, je voulais savoir pourquoi vous aviez accepté cette fois-ci d'aller justement au gouvernement. Parce que je crois savoir que vous aviez refusé déjà ce poste.
Voilà. Écoutez, bon, des paramètres peut-être un peu, comment dire, multiples. D'abord, je pense nécessaire que si le pays veut se réformer, il faut casser un certain nombre de codes, de barrières politiques, de démocratie binaire. Et j'ai senti qu'il y avait un moment favorable. Bon, une fois que j'ai dit ça, je reste évidemment excessivement prudent. Et pour vous dire les choses aussi très, très rapidement, au moins dans mon engagement, parce que vous savez, ça sera ma seule incursion politique. Hein. Je reprendrai probablement mon engagement associatif. Je me dis que j'aurais tout essayé. C'est-à-dire que j'aurais essayé de faire bouger les choses de l'extérieur. et puis j'aurais essayé de faire bouger les choses de l'intérieur. L'intérêt, et je verrai si j'ai raison ou si j'ai tort, d'être au gouvernement, c'est que je suis en circuit court pour essayer d'influer sur les uns et sur les autres.
Mais alors, que répondez-vous à ceux qui disent, Nicolas Hulot, ben, un jour il finira par partir, il quittera le gouvernement face aux concessions qu'il faut faire quand on gouverne pour satisfaire tout le monde et éviter les conflits?
Non, l'idée n'est pas, effectivement, si on doit traiter tout de manière conflictuelle. Vous savez, isolément, tous les sujets que je porte, ils sont conflictuels. Et moi, mon rôle, c'est d'expliquer à chacune et chacun que si on les prend isolément, oui, on a toujours une bonne raison de ne rien faire. Mais si on replace cet enjeu au niveau où il doit être placé, c'est-à-dire c'est l'avenir de l'humanité qui est en train de se déterminer. En tout cas, les conditions d'existence de nos propres enfants, j'espère que, notamment par la force de la pédagogie, je vais pouvoir libérer les énergies. Mais je ne vais pas mettre ma démission sur la table chaque matin. Ce n'est pas comme ça qu'on avance. Je ne suis pas dans cet état d'esprit. Moi, je suis dans un état d'esprit de confiance. On a des parcours, des histoires, des cultures très différentes au gouvernement. Moi, j'espère que cette diversité va être une richesse. Et j'ai misé sur cette richesse-là. Moi, mon seul marqueur, c'est est-ce que je vais pouvoir mettre en place des dynamiques et des tendances qui seront irréversibles dans le domaine de la transition énergétique, dans le domaine de l'économie et dans le domaine de la production agricole. Si je sens que je suis capable, avec d'autres, évidemment avec ce gouvernement, de convertir et d'engager ces trajectoires irréversibles qui vont tenir compte des contraintes du XXIe siècle, au moins, je me dis, mon passage aura été nécessaire.
Ça a commencé, c'est parti.
Le plan climat, par exemple, que j'ai annoncé, très sincèrement, il est ambitieux. Voilà, on va voir ce qui va sortir des états généraux de l'alimentation. C'est important. La nouvelle économie qu'on appelle l'économie bleue, l'économie verte, l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, dont j'ai aussi la responsabilité. On est en train de travailler sur des plans. On va regarder. C'est bien trop tôt, ni pour à la fois pour s'inquiéter et bien trop tôt pour se réjouir.
Alors justement, les énergies marines renouvelables, l'économie bleue, est-ce qu'elles menacent la protection, cette économie-là, de l'environnement marin? C'est ce que certains disent.
Ce que j'ai dit à tous les acteurs, je suis allé les rencontrer notamment à Brest l'autre jour, de ce potentiel économique que la mer et que les océans peuvent nous fournir. Ma priorité, elle est double. Maintenir l'intégrité de cet écosystème, car l'avenir des hommes est lié à l'avenir de l'océan et à son bon état. Mais pour autant, les océans peuvent nous aider. C'est vrai que notamment dans le domaine des énergies renouvelables, l'utilisation des courants, du gradient thermique, de la houle, des vagues, pour ne parler que de ça.
Les éoliennes.
Et des éoliennes offshore. Oui. Bon. Mais là aussi, il va falloir à un moment ou à un autre qu'on soit cohérent. On ne peut pas accepter qu'il faille 12 ans entre le moment où on fait une appel d'offres et le moment où on implante la première éolienne offshore. Donc il va falloir accélérer les procédures. Et je sais que ça heurte un certain nombre d'esprits, mais on ne peut pas être contre le nucléaire, contre les énergies fossiles, et contre les énergies renouvelables.
Au standard, avec nous ce matin, Mathilde à Montreuil. Bonjour Mathilde.
Bonjour, merci de prendre ma question.
Bienvenue.
Je voulais interroger Nicolas Hulot sur l'accord de commerce, le CETA, que l'Union européenne a négocié avec le Canada et qui devrait bientôt être ratifié par la France et qui est fortement promu par le président de la République. Parce qu'avant d'entrer au gouvernement, Monsieur Hulot, vous avez alerté sur les risques que cet accord fera peser, notamment sur le climat, sur la démocratie. Et le Conseil constitutionnel a donné son feu vert lundi à cet accord en s'appuyant sur une argumentation du gouvernement très favorable au CETA. Donc on voulait savoir pourquoi la voix des ministres opposés à cet accord n'avait pas pu être entendue. Est-ce que vous demanderez à Emmanuel Macron de saisir le juge européen pour lever les doutes qui persistent?
Nicolas Hulot.
Alors, simplement, le Conseil constitutionnel lui a dit le droit. Il a vérifié si cet accord était compatible sur un plan purement juridique. Mais ça n'enlève pas les inquiétudes et les réserves que j'ai énoncées avec bien d'autres, parce que vous avez raison de le dire, cet accord de libre-échange, c'est un accord d'une nouvelle génération. Et s'il passe en l'état, il ouvre la porte à un cortège d'accords de libre-échange, parce que ces accords, ce n'est pas simplement de synchroniser des droits de douane, c'est simplement de mettre à niveau des normes environnementales et des normes sociales. Donc oui, on a des raisons de s'inquiéter. Et ce que je veux simplement dire, c'est que le président s'est engagé, et c'est le cas, à ce qu'un groupe d'experts vérifie la compatibilité de cet accord, notamment avec les engagements de Paris. Donc ce qu'a dit le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de ce que va dire ce groupe d'experts. Donc pour moi, la réflexion et l'interrogation demeurent et j'attends de voir ce que va dire ce groupe d'experts.
Est-ce que vous sentez déjà, Nicolas Hulot, l'action des lobbies qui veulent contrecarrer votre action?
Vous répondre non, personne ne me croirait. Mon ministère, mon action est à la croisée de groupes d'intérêts très, très puissants, à qui on a laissé une latitude absolue pendant des années. Ce qui fait d'ailleurs qu'on se retrouve dans des situations très critiques, à force d'épargner les uns et les autres, au nom d'intérêts immédiats, de court terme, économiques. Je prends par exemple la qualité de l'air. Si on avait anticipé, si on avait mis des normes plus tôt, on ne serait pas dans cette espèce de brutalité que l'on est obligé d'avoir pour prendre en charge cette situation de crise, de pollution qui occasionne des problèmes de santé importants. Oui, effectivement, il y a une résistance, il y a une inertie. J'y ferai pas front tout seul. J'y ferai front si le gouvernement me soutient. Et j'ai ce sentiment, c'est que le gouvernement va me soutenir.
Avec nous sur l'antenne, Alexandre, pardon, je regardais l'écran de mon ordinateur. Alexandre, bonjour, vous êtes un entrechaud, c'est
oui,
cela?
Oui, bonjour. Oui, exactement, monsieur, je suis
dans le département. Ah, d'accord, très bien.
Dans le Vaucluse, dans le sud-est, là où il fait très chaud en ce moment. Donc je suis vigneron, donc en agriculture biologique. Et ma question est très simple, en fait, il y avait une idée qui avait été proposée par Benoît Hamon lors de la présidentielle, qui était de mettre en avant, pour favoriser les produits bio, de mettre en place une TVA à taux réduit, qui aurait pour deux gros avantages, de rémunérer de manière plus correcte les agriculteurs bio et de favoriser l'accès aux produits bio consommateurs, au plus grand nombre, parce que c'est un peu la remarque qui revient souvent chez les consommateurs, c'est que c'est souvent trop cher, d'après eux.
Alors, vous avez raison, il en vaut des produits bio comme d'un certain nombre de biens ou de services écologiques qui sont souvent plus chers parce qu'ils se font dans des échelles très petites et donc il n'y a pas l'économie d'échelle. Sur l'idée d'une fiscalité qui puisse être parfois dissuasive, parfois incitative, et de pouvoir jouer avec la TVA, je fais travailler actuellement un certain nombre de personnes sur une panoplie d'instruments. Parce qu'il faut de la fiscalité incitative et il faut de la fiscalité dissuasive. Il faut dissuader progressivement des modes de consommation qui vont pas dans le bon sens et inciter ceux qui vont dans le bon sens. Sur l'agriculture bio, il y a aussi un levier très important qui sera débattu au moment des états généraux de l'alimentation. Je le porte depuis très longtemps, mais il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et le président s'y est engagé, c'est la restauration collective. 4,5 milliards de repas. Si une grande partie de cette restauration collective s'approvisionne sur des circuits courts, de qualité et notamment l'agriculture biologique, on pourra avoir un effet de masse et à ce moment-là que les produits issus de l'agriculture biologique soient à compétition avec les produits issus de l'agriculture conventionnelle.
Nicolas Hulot, vous êtes un grand défenseur des espèces menacées. Vous avez signé un arrêté qui autorise l'abattage de 40 loups jusqu'en juin 2018. Est-ce qu'on n'est pas là au cœur de votre situation difficile? On a des idéaux et puis il y a la réalité quand on est ministre et il faut entendre les uns et les autres et notamment les éleveurs qui voient leurs troupeaux décimés par des loups.
Bon, d'abord, cet arrêté, il est signé par deux ministres, le ministre de l'Agriculture et moi-même. Donc, nous l'assumons tous les deux. Il ne me satisfait pas du tout. Il ne me satisfait pas parce qu'il ne règle rien. Et c'est bien pour ça que j'ai demandé à ce qu'on engage une nouvelle concertation à l'automne qui redéfinira un plan sur 4 ans. Là, je l'ai fait parce qu'il y avait, encore une fois, un calendrier qui m'y obligeait. Moi, l'idée, évidemment, de donner l'autorisation de 40 prélèvements, ça ne correspond à aucune rationalité. Ce que je veux simplement dire, c'est que j'ai deux oreilles et un cœur. J'ai une oreille pour les loups, une oreille pour les brebis, et je dirais même une oreille, évidemment, pour les éleveurs.
Voilà, quand on est ministre, voilà. C'est comme ça.
Oui, mais parce que c'est comme ça. On peut pas fermer les yeux. Il y a une situation de détresse qui est évidemment audible et rationnelle avec les éleveurs. Mais je veux, à l'avenir, avoir quelque chose qui soit excessivement plus cohérent, en essayant de comprendre pourquoi les systèmes de protection ne fonctionnent pas bien. Et je pense qu'il doit y avoir de la place, évidemment, pour le loup, mais il doit aussi y avoir de la place pour le pastoralisme.
Marie-Agnès en Normandie. Bonjour Marie-Agnès.
Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Hulot. Nous sommes agriculteurs, nous produisons sur une petite ferme en polyculture élevage. Nous produisons du lait avec de l'herbe et des céréales produites sur la ferme. Or, ce lait n'étant pas en bio, n'a aucune revalorisation par rapport à du lait conventionnel, maïs, soja, béton. Ça, c'est un constat. Et d'autrement, je demande à Monsieur Hulot, comment faire dans l'état actuel?
Ah, voilà. La ligne n'est pas très bonne, Marie-Agnès.
Je sais, la ligne n'est pas bonne, ouais. Mais je suis désolée.
Il y a des coupures, malheureusement, il y a des coupures. Alors, posez votre question assez rapidement, parce que je crains que la ligne soit définitivement hors service. Marie-Agnès, allez-y.
Là, voilà. Et je pense qu'ici, ça va aller mieux. Moi, je vous entends mieux. Donc, je voudrais savoir s'il n'y a pas... dire qu'il y a inadéquation entre le discours et la méthode. Parce que, en fait, on dit... Et on s'aperçoit que tout est fait pour les grosses, les aides aux petits diminuent de jour en jour, les aides au passage en bio sont... Donc, que faire ?
Alors, la défense de ce qu'on appelle l'agro-business...
J'espère vous avoir compris sur l'essentiel, madame. C'est bien l'inéquité de la PAC. C'est qu'il y a une grande partie du budget qui profite à une petite partie de l'agriculture. Et donc, il faut, notamment dans la perspective de la révision de la politique agricole commune, qu'il y ait une beaucoup plus grande équité. Et d'ailleurs, je reconnais que l'idée du transfert du pilier 1 au pilier 2 que M. Travers a engagé, il va dans ce sens. Il va notamment à l'agriculture de montagne qui n'a pas, je dirais, les mêmes conditions d'exploitation et de rendement que d'autres. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup plus d'équité, il faut conditionner les aides à la création d'emplois. Parce qu'il y a des modes de production qui créent beaucoup plus d'emplois, aux règles environnementales et évidemment à un engagement progressif pour réduire l'utilisation des intrants.
Mais il y a des producteurs bio qui disent, là, avec ce peu d'aide, on va fermer, on met la clé sous la porte, on ne va pas pouvoir s'en sortir.
Attendez, l'aide à la conversion, il n'est pas remis en cause. Moi, je vais me battre pour que l'aide au maintien de l'agriculture biologique dans les états généraux de l'alimentation soit remis à l'ordre du jour.
Nicolas Hulot, faut-il interdire les spectacles avec les animaux, exemple, fin des dauphins captifs, comme dans 12 pays européens, d'après la Fondation Bardot ?
Alors, moi, je vais répondre d'une manière plus large. Je vais créer un groupe de réflexion sur le bien-être animal. C'est un sujet de société, il ne faut pas avoir peur de l'aborder. Ça n'est pas opposer les humains aux animaux, c'est justement, me semble-t-il, un indice de civilisation, d'être capable de se poser des questions essentielles sur le bien-être animal. Et on parlera notamment de tous ces sujets-là, et j'ai l'intention de confier à un philosophe et un parlementaire un groupe de réflexion sur ce sujet-là.
Et vous espérez des mesures concrètes au bout
oui,
de
mais parce
combien
que
de temps
on
parce
a
que
tellement
des groupes de travail.
Non, non, mais l'idée après, c'est évidemment d'en tirer un certain nombre de conclusions. Vous savez, déjà dans le code civil, on a légèrement amélioré le statut de l'animal, mais ça n'est absolument pas suffisant. Il faut le faire d'une manière délicate parce qu'il ne faut pas le faire d'une manière frontale, notamment avec le milieu de l'agriculture. C'est pas du tout eux qui sont visés dans ce sujet-là. Mais je pense que c'est une question qu'on ne peut pas mettre de côté. Moi, je ne suis pas évidemment favorable à la captivité des animaux. Je ne suis pas favorable à l'idée qu'on fasse du spectacle avec cette captivité-là. Je ne suis pas. Et ça vaut pour dans beaucoup de domaines. Et il y a l'actualité aussi nous rappelle qu'il y a des formes de cruauté aujourd'hui. Qui sont communément admises et qui sont pour moi inadmissibles. Donc je veux prendre justement le sujet d'une manière très profonde.
Nicolas Hulot, le site de stockage de déchets nucléaires à Bure, des études supplémentaires sont en cours face au risque d'incendie, de fuite de déchets. Votre opinion, qu'est-ce qui va se passer à Bure ?
Alors, il se passera ce que l'autorité de sûreté nucléaire me dira qu'il peut se passer, parce que pour moi, c'est le juge de paix. Je veux simplement dire
mais
que...
Vous avez aussi une opinion, le ministre de la Transition écologique.
J'ai une opinion, c'est qu'on a des déchets. Oui. C'est pas moi qui les ai produits. Je préférais que ces déchets ne soient pas là, et je préférais surtout qu'on ne grossisse pas le flux des déchets ultimes. Mais à un moment ou à un autre, on ne va pas les faire disparaître comme par enchantement. Donc il va bien falloir, d'une manière rationnelle et responsable, qu'on les prenne en charge. Voilà. Et donc, je regarderai avec l'autorité de sûreté nucléaire si il me confirme que le stockage à Bure est quelque chose de sensé ou pas. Donc je prendrai mon temps pour évaluer, mais en l'état, évidemment, j'ai bien entendu les réserves qui sont émises.
Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, était l'invité de France Inter ce matin. Merci beaucoup.
Merci à vous.